people today
c'est pas du vent.
Is government and politics. But what they do for the people of tomorrow
sur RFI,
that is statesmanship.
You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove
c'est
your
pas du vent,
crisis,
le magazine de l'environnement sur RFI.
Friends, in each of our countries, we are seeing the devastating impact of a changing climate.
No time for blah, blah, blah.
Floods. Cyclones. Wildfires. Record temperatures.
Scientists believe it's human activity that's driving the temperatures up, a process known as global warming.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes à Glasgow en Écosse dans le Scottish Event Campus, un immense centre de conférences aménagé pour accueillir les 39 500 participants de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Nous sommes installés dans le centre de presse avec près de 3 800 collègues journalistes. Cela vous donne l'ampleur de l'événement. Mais au-delà des chiffres de participation, c'est ce qui se joue dans les salles de négociation qui est crucial. Alors que les conséquences du changement climatiques se font sentir sur toute la planète, ces négociations à 196 pays sont le seul endroit où des décisions peuvent être prises à la hauteur de l'enjeu. Un enjeu colossal puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une question à solidarité obligatoire se pose. Quand le ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu interpelle dans une vidéo les négociateurs de la COP debout jusqu'à mi-cuisse dans l'océan en leur disant « nous sommes en train de couler », cela donne la dimension dramatique du scénario qui s'écrit ici.
C'est pas du vent sur RFI.
L'un des sujets les plus emblématiques de cette solidarité obligatoire, c'est l'argent. Les pays développés n'ont pas tenu leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider les plus pauvres. Et lorsque l'on parle de finances climatiques, le premier organisme qui est cité, c'est le Fonds vert. Ce mécanisme financier est rattaché à la Convention des Nations Unies sur le climat. Il a été créé en 2009. Il vise à transférer des fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables. Le Fonds vert joue-t-il vraiment son rôle? Voici les explications de Yannick Glemarek, il est le directeur exécutif du Fonds vert.
Le Fonds vert aujourd'hui est le plus grand fonds multilatéral pour la lutte contre les dérèglements climatiques. On a été établi politiquement en 2010, mais on a été capitalisé en 2015 et on a commencé nos opérations en 2015-2016.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelles finances dispose le Fonds vert? Parce qu'en fait, il y a des confusions très importantes. Beaucoup de nos auditeurs nous écrivent, par exemple, en disant « mais les 100 milliards que le Fonds vert a dans ses caisses, quand est-ce qu'on va toucher cet argent ?» Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, aujourd'hui, vous avez combien d'argent sur vos comptes?
Aujourd'hui, pas grand-chose sur nos comptes parce qu'il y a eu des promesses de financement d'à peu près 20 milliards de dollars depuis le début de la création du Fonds vert. Ça s'est traduit par un peu plus de 17 milliards de dollars en accords signés et donc avec des calendriers sur 10 ans souvent pour le transfert de l'argent. Donc, on a reçu depuis en argent liquide hein, qu'on peut programmer, on a reçu depuis le début de nos opérations 11,6 milliards de dollars et on a alloué 11,7 milliards de dollars. Les 100 millions de plus, c'est parce qu'on a déjà obtenu des retours d'investissement sur nos premiers projets.
Donc on est très loin des 100 milliards de dollars.
Nous ne représentons pas les 100 milliards de dollars. Nous représentons actuellement à peu près 3% de ces 100 milliards de dollars.
Et pourquoi?
Parce qu'il y a beaucoup d'autres options en matière de financement. Par exemple, pour les bailleurs de fonds, ils peuvent utiliser leur propre agence de mise en œuvre. En France, ça sera l'Agence française pour le développement. Ou ils peuvent utiliser des banques multilatérales.
Comme la Banque africaine de développement.
Ou ils peuvent utiliser des organisations de la société civile, comme le WWF.
Donc quand on parle de ces 100 milliards pour la finance climat, en fait, c'est l'argent mobilisable globalement. Ce n'est pas uniquement au sein du Fonds vert.
Ah non, je suis heureux que vous me posiez cette question parce que c'est vraiment une des plus grosses confusions que nous avons actuellement sur Fonds vert où les gens me disent « mais où sont les 100 milliards ?» Et donc à chaque fois, je réponds « non, les 100 milliards ont été alloués à peut-être 200, 300, 400 organismes. nous ne représentons que 3% de la finance. Ceci dit, ces 3% sont clés parce que nous travaillons avec plus de 200 organismes. Des plus grosses banques commerciales au monde comme BNP Paribas ou Deutsche Bank ou Mitsubishi Bank à des organisations de la société civile. Et nous jouons un rôle clé en matière de circulation de l'information, circulation des bonnes pratiques, coordination de cette architecture du changement climatique.
Quels sont les pays qui ont contribué au fonds vert aujourd'hui et quels sont ceux qui ne contribuent pas du tout ?
Nous avons eu une trentaine de pays qui ont contribué au fonds vert. Le renquaissage de 2019 était supérieur à celui de 2014-2015. Parmi les pays qui ont doublé, par exemple, nous avons l'Angleterre, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons la Norvège, nous avons la Suède, qui ont doublé leur contribution. Pour la France, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc, le pays qui manquait à l'appel, ce sont les États-Unis.
Barack Obama avait promis 3 milliards de dollars pour le fonds vert et quand Donald Trump est arrivé, il a dit « vous ne les aurez pas ». Et aujourd'hui, que dit Joe Biden ?
Alors, Joe Biden a demandé au Congrès américain d'allouer 1,25 milliard de dollars pour l'année 2022. Les 1,5 milliard d'euros des Français, c'est pour 4 ans. Et la même chose pour les Britanniques et les Allemands. Donc 1,25 milliard de dollars pour l'année 2022, si on multiplie par 4, ça fait 5 milliards de dollars. Donc c'est le même niveau d'ambition que les Européens. Et ceci nous aiderait énormément parce que ça nous permettrait de maintenir le très fort niveau de programmation que nous avons depuis le début de la pandémie. Depuis le début de la pandémie, nous allouons 3 milliards de dollars par an pour permettre de maintenir les ambitions climatiques dans une situation de crise très grave pour les pays en voie de développement. La pandémie du Covid-19, c'est une crise humanitaire qui est devenue une crise climatique, qui est devenue une crise fiscale et qui est devenue une crise de la dette. Donc, sans appuis internationaux, les pays en développement ne seront pas en mesure de réaliser leurs ambitions climatiques. Et donc pour nous, si nous avons un renquaissage des Américains, ça va nous permettre de continuer notre contribution. Notre grand objectif, c'est de nous assurer que nous continuons à programmer aussi vite que nous pouvons.
Et alors ce sont à chaque fois des dons ou des prêts ?
Ça va dépendre des projets. Et donc, nous avons des projets de renforcement des politiques publiques. Alors là, on va utiliser des dons. Nous avons des projets, par exemple, dans l'adaptation très importants au niveau de la résilience, mais qui n'ont pas de retour financier. Et là, en règle générale, on va financer aussi en dons. Mais nous avons aussi des projets d'investissement en capital privé, des fonds en capital privé. Et là, en règle générale, nous allons fournir une partie des investissements en capital privé. Et là, nous allons avoir un retour sur investissement après. Donc, on part du projet. On peut donner soit des dons, soit des prêts, soit des garanties, soit un investissement en capital. Cela dépend de ce que nos partenaires ont besoin pour finaliser la structuration financière de leur projet.
Vous parliez de BNP Paribas, qui est un de vos partenaires. Vous parliez des banques nationales. Aujourd'hui, quand on regarde la finance du monde, on va dire, en dehors du fonds vert, qui est vraiment une finance spécifique, l'essentiel des banques finance encore les énergies fossiles ou finance cette économie carbonée qui est à la base du changement climatique. Donc, il y a un côté un peu schizophrénique, non ?
Si vous êtes un banquier, vous financez ce que vous avez l'habitude de financer. Et vos équipes ont un certain type d'expertise. Et tout d'un coup, on leur demande de financer des projets complètement différents au niveau technologique, au niveau des besoins d'appui en politique publique, au niveau du profil financier, avec beaucoup d'argent est demandé au départ, mais après des coûts de mise en œuvre plus faibles. Donc c'est et des projets dont le retour sur investissement va dépendre du type de scénario climatique que nous avons dans le futur. Donc vous imaginez le changement de paradigme que cela représente. Donc nous, notre travail, c'est en fait d'aider ces institutions à développer leur premier portfolio de projets d'investissement climatique. Ça va leur permettre après de développer des équipes qui sont familières avec ce genre d'investissement. Ça va leur permettre d'évaluer le type de risque de ces investissements et donc après d'évaluer le type d'intérêt qu'ils vont exiger. Et donc, grosso modo, on crée un nouveau marché vert en permettant à ces institutions financières de développer et de financer de nouvelles classes d'actifs.
Donc pour vous, c'est plus une question de connaissances, d'appui technique, de pratiques à changer que de volonté de continuer à financer une économie carbonée.
Je ne vous avais pas dit ça il y a 5 ans. Je travaille sur les changements climatiques depuis plus de 30 ans et l'évolution a été exponentielle depuis l'accord de Paris. La plupart des institutions financières se rendent compte que leurs consommateurs maintenant exigent différents types de produits d'investissement. Je suis sûr que quand vous allez voir votre banque, vous leur dites, pour mes économies, moi je veux que ce soit des économies qui dans des actifs verts et responsables socialement. Et vous n'êtes pas la seule. Ils se rendent compte aussi qu'avec les risques physiques, leurs infrastructures non résilientes ont une très très forte chance d'être détruites. Donc il faut qu'ils réinventent leur corps de métier. Et c'est là où des fonds publics peuvent avoir un rôle extrêmement important. Les banques vont réinventer leur corps de métier, mais on leur demande de réinventer leur corps de métier immédiatement, pas dans 10 ans ou dans 15 ans. La même chose au niveau d'une technologie, ça prend 25 ans pour qu'une nouvelle technologie aille du laboratoire au marché. On n'a pas 25 ans. Donc quand nous soutenons une technologie, c'est pour qu'elle saute du laboratoire au marché en 10 ans, pas en 25 ans.
Dans les faits, les pays, notamment les pays africains, ont l'impression qu'ils n'ont pas accès aux finances climat. Ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Comment faire en sorte que ces pays, qui sont pourtant les plus vulnérables, et c'est pour eux que le Fonds vert notamment a été créé, aient accès à cette finance climat?
Au niveau du Fonds vert, en effet, nous, on a été mis en œuvre pour aider les plus vulnérables. On est tenu à allouer 50% de nos ressources à l'adaptation, 50% à l'atténuation des gaz à effet de serre. 37% de nos ressources totales, c'est pour l'Afrique. On a investi depuis 2019 1 milliard de dollars avec 2,5 milliards de dollars de cofinancement dans le Sahel. On a depuis 2019 soutenu 29 projets dans le Sahel pour la Grande Muraille Verte. Et maintenant, une bonne partie de mes discussions lors de cette COP, c'était: comment est-ce qu'on peut accélérer maintenant le décaissage? Nous, on approuve et on décaisse aux agences, mais après, les agences doivent elles-mêmes décaisser aux communautés. Comment peut-on accélérer ce décaissage? Et comment peut-on s'assurer que cet argent soit géré en partenariat avec les communautés? Qu'on puisse utiliser tout le savoir des communautés pour l'utiliser au mieux. S'il y a une chose que nous savons, c'est que si vous voulez être efficace, reposez-vous sur le savoir des communautés. Si cet argent est dépensé d'une façon technocratique, il aura très peu d'impact.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples parmi les 29 projets que vous avez financés?
On a un projet de 83 millions de dollars avec l'IFAD sur l'agriculture résiliente au changement climatique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de soutenir les petits agriculteurs. En même temps, on a un projet d'une taille supérieure, 960 millions de dollars avec la Banque africaine pour quelque chose qui s'appelle du désert à l'énergie, Desert to Power. Et là, c'est pour donner accès à l'électricité. Vous savez, sans électricité, c'est très difficile d'avoir une agriculture durable parce que vous n'avez pas l'accès aux chaînes de froid, vous n'avez pas l'accès à la micro-irrigation. Et après, on a un certain nombre de projets, par exemple, pour le reboisement. La raison pour laquelle nous avons cette diversité de projets, c'est que la Grande Muraille Verte, ça doit être un nouveau projet d'économie verte. Demander aux villageois de planter des arbres en milieu désertique sans alternative économique ne va pas nous amener très très loin. Et donc il faut vraiment créer une économie verte dans le Sahel. Et ça va demander de nouvelles pratiques agricoles, ça va demander l'accès à l'électricité, l'accès à tous les services sociaux et des gros efforts de restauration des écosystèmes. L'engagement que nous avons pris en commun, par exemple, avec la Banque africaine de développement et l'IFAD hier, c'est que la COP27, on doit voir des résultats au niveau communautaire.
Donc on suivra ça de près. On verra si vraiment l'argent arrive sur le terrain et si les projets se développent. Merci beaucoup.
Merci.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. COP26, what's this? COP26, what's it gonna fix? COP26, just more politics, we're running out of time. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr. Your speech is sponsored by blah blah blah. Your blind eye by corporate environmental crime. It's greenwash, we know what you are. You're not saving the planet, and we're running out of time. COP26, what's this? COP26, what's it gonna fix? COP26, what's it gonna fix? We're running out of time.
Les pays africains ressentent de plus en plus les conséquences des changements climatiques. Les inondations, comme celles que subissent actuellement les habitants d'Abidjan en Côte d'Ivoire, ou les sécheresses, comme celles qui a déclenché la crise humanitaire dans le sud de Madagascar. Selon un récent rapport de l'Organisation météorologique mondiale, jusqu'à 118 millions de personnes parmi les plus pauvres seront exposées à ces aléas en Afrique d'ici 2030. Mais s'adapter coûte cher. Pour certains pays, cela mobilise déjà jusqu'à 10% de leur budget national et cela impacte leur capacité de développement. Une situation inquiétante pour Ali Hamdou Dorsouma, directeur du changement climatique à la Banque africaine de développement.
La plupart des pays ont des niveaux de développement très très bas et il s'ajoute à ça aujourd'hui les questions liées au changement climatique qui leur posent des défis énormes. Quand vous dites qu'un pays utilise 10% de son budget annuel pour faire face aux impacts négatifs des changements climatiques, pour des pays qui ont déjà des ressources, des budgets très limités, c'est énorme. Et déjà, on a observé que la plupart des pays les plus vulnérables au monde se trouvent en Afrique. Les dernières statistiques que j'ai observées il y a quelques jours montrent que tous les 10 pays les plus vulnérables au monde sont en Afrique. Cela est inquiétant dans la mesure où ce sont les économies qui sont touchées, ce sont les moyens de subsistance des populations qui sont également touchés, ce sont également les écosystèmes naturels qui sont touchés. Mais cela se passe aussi dans un contexte où ce sont les pays qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'Afrique, de façon globale, n'a contribué de façon cumulative qu'à 2,8% des émissions globales de gaz à effet de serre. Au-dessus de tout cela, c'est le continent qui reçoit le moins de la finance climatique globale. L'année dernière, la finance climatique globale est montée à peu près à 632 milliards de dollars américains. Sur les 632 milliards de dollars américains, l'Afrique n'a reçu que 20 milliards de dollars. Et sur les 20 milliards de dollars, 2 milliards étaient fournis par des ressources nationales des pays eux-mêmes.
Alors on va voir avec vous comment est-ce que la Banque africaine de développement aide du coup les pays africains malgré ce contexte. Quelle est la part des finances climat aujourd'hui au sein de la BAD?
Alors la BAD, sur les 5 dernières années, a fixé un objectif ambitieux en matière de finances climat. Cet objectif, c'est d'allouer 40% de ses investissements par an aux actions pour lutter contre le changement climatique. C'est un objectif ambitieux, sachant que nous opérons dans un contexte financier très difficile, mais nous espérons pouvoir atteindre cet objectif. Et à côté de cet objectif, nous sommes fixés notre objectif très important, celui d'assurer la parité des financements entre ce qui est alloué à l'atténuation et ce qui est alloué à l'adaptation. Et comme vous devez sûrement le savoir, à l'échelle globale, l'atténuation attire plus de 90% des financements.
Donc c'est 40% que vous souhaitez donc consacrer à la finance climat sur le continent. Ça se décline comment? C'est à travers des initiatives que vous avez lancées? Il y en a plusieurs que vous avez lancées ces 5 dernières années?
Ça peut être des projets dans différents secteurs, agriculture, énergie, ressources en eau, etc. Sur ces dernières années, nous avons lancé de grandes initiatives qui, à notre avis, pourrait contribuer à changer un peu le narratif relatif au changement climatique en Afrique. Comme par exemple les projets de sécurité alimentaire dans le Sahel. Vous savez que c'est la région qui vit la sécurité alimentaire presque de façon continue chaque année. Et donc nous avons dans le cadre de ce programme-là, le premier pilier qui est dédié à la lutte contre l'insécurité alimentaire, à travers notamment la fourniture des semences améliorées aux paysans, aux agriculteurs, à travers notamment l'utilisation des technologies résilientes aux effets néfastes des changements climatiques, pour que également fournir de l'assistance aux agriculteurs en cas de perte de récolte. Donc nous avons un programme également au sein de notre institution qu'on appelle le programme ADRIFI, qui permet de fournir du financement en cas de désastre climatique. Ça peut être la sécheresse, ça peut être l'inondation, pour que les pays puissent faire face aux pertes qui sont encourues par les actions liées au changement climatique.
Alors moi, par exemple, je suis auditeur de RFI, je vous entends là, j'ai perdu toute ma récolte à cause d'une sécheresse. Comment je fais pour bénéficier de ces financements?
Alors, c'est un mécanisme, on appelle ça de l'assurance indicielle. On fait des calculs, il y a un modèle qui est utilisé. Par exemple, si dans une localité donnée, les paysans font de la culture céréalière avec 500 mm de pluviométrie par an, et qu'au cours de l'année, au lieu d'obtenir 500 mm de pluviométrie, ils obtiennent plutôt 300 ou 400 mm. On estime qu'ils vont être en situation de sécheresse et donc de pénurie alimentaire. Et donc, ils peuvent être éligibles à ces mécanismes-là.
Alors, le continent africain, vous le disiez tout à l'heure, ne bénéficie que de 3% de la finance climatique mondiale, alors que ces pays font partie, vous le disiez, des plus vulnérables. Comment est-ce que cela s'explique ?
Cela s'explique par plusieurs raisons. Je dirais deux types de défis. Le premier niveau, c'est le niveau même de préparation des pays concernés, des pays africains. Parce que pour accéder à ces financements, comme je l'ai dit, il faut avoir des agences d'exécution ou d'agences de mise en œuvre, des institutions de mise en œuvre. Et ces institutions de mise en œuvre doivent disposer des capacités d'absorption des ressources des fonds climatiques. Et comme vous le savez, ces ressources des fonds climatiques, on les absorbe à travers des projets bancables. Donc il y a un gros problème de bancabilité, entre guillemets, des projets, c'est-à-dire des projets qui sont en mesure de remplir les cases de, un, des projets qui ont de l'impact sur le terrain, deux, des projets qui sont appropriés par les bénéficiaires, trois, des projets qui respectent un minimum de normes environnementales et sociales, quatre, des projets qui respectent les exigences en matière du genre, et tous ces paramètres, tous ces critères pour les remplir, il faut que les pays disposent de politiques et de stratégies adéquates en place. Il se trouve que beaucoup d'institutions n'ont pas de cadre réglementaire pour encadrer ces dimensions-là. Donc il y a beaucoup d'exigences de ces fonds-là que les pays n'arrivent pas à remplir. Donc il se trouve justement un besoin énorme de renforcement des capacités des pays à ce niveau-là. Et deuxième niveau, également, c'est la capacité de mise en œuvre. Une fois que les ressources sont mises à disposition, comment faire en sorte que ces ressources soient déployées de façon efficiente à travers des activités sur le terrain? Comment impliquer les populations locales ou impliquer les organisations de la société civile pour déployer ces ressources-là sur le terrain?
Mais justement, est-ce que ces difficultés d'accès au financement pour les pays africains qui sont si vulnérables, ce n'est pas symbolique de machines qui sont créées ici, par exemple, dans les COP, et qui après ont du mal à se décliner concrètement sur le terrain parce que ce sont, sans jeu de mots avec le climat, mais des usines à gaz, quoi, comme on dit?
Ben, vous avez raison. Ces machines, comme vous le dites, ont été conçues loin des réalités des pays, loin des préoccupations des plus vulnérables, et nous en sommes là aujourd'hui. Et puis, il se trouve également que la plupart sont logés loin, très loin de ces pays. Par exemple, les fonds d'investissement climatique sont basés à Washington, au sein de la Banque mondiale. Le fonds pour l'environnement mondial également est à Washington. Le fonds vert est en Corée. Et en plus d'être loin des réalités, on fixe des exigences qu'on peut difficilement atteindre et auxquelles les pays ont du mal à souscrire.
Oui, parce que résultat, les pays qui bénéficient le plus de ces financements sont les pays dits émergents, comme la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, qui sont des pays, certes, vulnérables au changement climatique, mais quand même plus développés et moins pauvres que les pays africains.
Exactement. Ce mécanisme aujourd'hui favorise les pays émergents et même quelquefois les pays développés. Parce que la particularité des fonds climatiques, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle la préférence nationale. La grande partie des fonds climatiques sont absorbés dans les pays où ces fonds-là sont générés. Par exemple, la Chine contribue beaucoup aux fonds climatiques. Mais ces fonds climatiques sont utilisés en Chine en majorité. Et si on prend les continents, la région du monde qui bénéficie le plus des fonds climatiques, c'est un, l'Asie-Pacifique, et deuxièmement, l'Europe, et puis après l'Amérique. L'Afrique étant une fois de plus le parent pauvre de la finance climat, à mon sens, je suis un optimiste, je pense que ça peut s'inverser pourvu que les pays eux-mêmes soient assez agressifs, entre guillemets, pour se mettre en branle-bas de combat, pour aller vers ces fonds, exiger ce qu'il leur faut pour pouvoir s'adapter. Il s'agit là de la survie des populations.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Shake, seal the contract from the contract. progressive world. Everything counts in large amounts.
C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à la COP26 à Glasgow en Écosse. L'un des sujets qui accentue les tensions dans les négociations en cours, ce sont les financements que les pays riches sont prêts à mobiliser pour aider les plus vulnérables à s'adapter et à construire des économies décarbonées. D'autant que ces pays, notamment africains, abritent de nombreuses ressources naturelles précieuses pour la transition écologique. Pour Tosim Panou Panou, négociateur senior pour la République démocratique du Congo, le deuxième pays le plus vaste du continent est résolument engagé à se présenter ici, à la COP26, comme un pays solution.
Ça veut dire que la RDC ne vient pas ici dans une posture de victime. La RDC estime qu'elle a des atouts qui peuvent aider à décarboner la planète, et des atouts qui peuvent aider à trouver des solutions pour que les pays aillent dans une voie de développement plus sobre en carbone. Et donc la RDC, le premier atout, c'est quand même sa forêt de 155 millions d'hectares, qui est une forêt qui aujourd'hui rend un service environnemental mondial à l'échelle planétaire. Deuxième atout que la RDC a, ce sont ses minerais stratégiques qui aujourd'hui participent à la transition énergétique, à la transition écologique, puisque ces minerais tels que le cobalt, le lithium, le coltan sont utilisés dans les nouvelles technologies qui aident par exemple à sortir l'industrie automobile du tout pétrole. Aujourd'hui, il y a des fabricants automobiles qui tous font une transition vers les véhicules électriques. Ces véhicules ont des batteries électriques qui contiennent du cobalt. Ce cobalt vient essentiellement de la RDC. Troisième atout que la RDC a, c'est son potentiel en énergie renouvelable. La RDC, d'aucuns le disent, est un paradis pour les électriciens, puisque la RDC a un potentiel d'énergie hydroélectrique de 100 000 MW, 100 gigawatts. Et lorsqu'on prend les autres sources d'énergie renouvelable telles que l'éolien, le solaire, la biomasse ou même son gaz méthane dans le lac Kivu, on estime qu'il y a environ 90 000 autres mégawatts qui peuvent être générés. Et donc la RDC peut participer à la décarbonation des mix énergétiques africains, voire aller au-delà, le sud de l'Europe ou le Moyen-Orient. Donc vous voyez que la RDC effectivement a plusieurs atouts qui l'aide à apporter des solutions à ce problème du changement climatique.
Aujourd'hui, les pays africains ont très peu accès aux finances climat. Quelle démarche la RDC entreprend, par exemple, aujourd'hui, pour avoir accès au fonds vert? Vous avez été membre du conseil d'administration du fonds vert, donc vous savez bien comment ça fonctionne. Ce sont des dossiers extrêmement compliqués à monter. Aujourd'hui, où en est la RDC dans ses démarches? Et est-ce que vous avez accès à cette finance climat?
Oui, déjà, quand on parle de finance climat, souvent il s'agit d'une espèce de nébuleuse qui ne dit pas son nom, simplement parce que différents partenaires la définissent en utilisant différentes unités de mesure. Et donc nous, en tant que pays en développement, nous estimons que le financement climatique est un financement qui devrait vraiment faire la part belle aux dons et aux fonds publics. En sus de cela, peuvent venir les flux privés, mais en sachant par exemple que les fonds privés vont rarement aller vers des projets d'adaptation En général, quand on investit dans un projet d'adaptation, c'est un projet à fond perdu. On essaie juste de s'assurer que des effets néfastes sont résorbés, tandis que les projets d'atténuation, eux, puisqu'ils donnent lieu à la création d'un actif carbone, peuvent effectivement être profitables et rentables. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que tel pays a reçu 10 milliards de dollars et la RDC n'en a eu que 100 millions, il faut définir quelle est la constitution de ce financement. Ça peut être du don, ça peut être du prêt hautement concessionnel ou ça peut être du prêt usurier. Donc ça dépend de ce que l'on veut. Il faut également tenir compte de la capacité d'absorption du pays. Un pays peut avoir une économie qui est assez forte et peut absorber en son sein des flux financiers extrêmement importants. Tandis qu'un autre pays peut par exemple avoir des institutions financières locales qui ne répondent pas à certains standards fiduciaires. Donc il nous faut renforcer le cadre général pour le rendre plus habilitant. Il nous faut renforcer les capacités de nos institutions financières pour qu'elles puissent être suffisamment crédibles pour absorber donc ces financements.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, si on prend l'exemple de la RDC, renforcer le cadre pour avoir davantage accès aux finances climat, pour la RDC, ça veut dire quoi?
Ce serait par exemple mettre des incitations fiscales. On peut par exemple dire, lorsque on importe des panneaux solaires ou lorsqu'on investit dans des énergies renouvelables, ce sera totalement défiscalisé, tandis qu'on va mettre d'énormes taxes sur les groupes électrogènes. Donc il faut en tout cas s'assurer que ça devient attractif pour le financement climatique, de telle sorte qu'il y ait une plus grande demande. Il peut également avoir des facilités en termes de fonds de garantie, où on dit, moi je suis la France, je vais aujourd'hui mettre 1 milliard d'euros dans une facilité en RDC pour garantir des investissements privés. Et donc certains investisseurs qui étaient frileux de venir en RDC parce qu'ils se disaient que c'était peut-être pas un pays suffisamment attractif ou qu'il n'y avait pas un pouvoir d'achat assez important ou que les perspectives de retour sur investissement n'étaient pas assez rapides, puis cet investisseur-là viendra parce que ce fonds de garantie aura un effet levier pour susciter l'intérêt du secteur privé.
Mais ce que vous expliquez là, cette histoire de manque de capacité des pays les moins développés pour avoir accès aux finances climat, en fait c'est dramatique parce que ce sont les pays qui en ont le plus besoin et c'est cela qui en plus crée des tensions dans les négociations. Donc on est sur un malentendu géant en fait.
Mais ça fait plusieurs années qu'on le dit. Lorsqu'on monte au créneau pour revendiquer des ressources, encore faut-il être en mesure de les absorber, c'est cela. C'est un peu cynique, c'est un peu paradoxal, mais c'est la réalité des choses. On ne va pas vous inonder d'argent qui ensuite n'aura aucune efficacité puisqu'il ne sera pas déboursé. Donc il faut démontrer qu'il y a une volonté réelle de pouvoir mettre en place les fondamentaux. Mais je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience qui va dans ce sens-là où les gens comprennent que il faut renforcer les capacités en termes de développement de projets, en termes de notes d'idées, de notes de concepts. Il faut renforcer les capacités en termes d'emploi vert pour être en mesure de pouvoir déployer certaines solutions dans le cadre donc, de l'action climatique. Et je pense qu'on est sur le bon chemin.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que l'usine à gaz qui a été créée par les conventions climat successives depuis 2009 concernant ces financements n'est pas adaptée finalement aux besoins des pays qui en ont le plus besoin?
Bon, déjà, quand on parle des besoins des pays, de quel montant parle-t-on? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la logique de 100 milliards de dollars, alors que lorsqu'on regarde les besoins des pays en développement, le groupe africain, à travers ses experts, ont fait une estimation qui établit les besoins de 750 à 1300 milliards de dollars par an. C'est cela dont on a besoin. Donc déjà, quand on parle des 100 milliards, on se trompe de curseur parce que ce n'est pas le montant nécessaire. 100 milliards de dollars, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre politique qui sonne bien à l'oreille, mais ce n'est pas ce qui est requis. Et donc, non seulement on essaie de nous vendre 100 milliards de dollars, mais en plus de ça, d'après le rapport de l'OCDE, ces 100 milliards de dollars ne sont pas atteints puisque le rapport établit que en 2019, seuls 79 milliards de dollars avaient été mobilisés. Donc il y a encore un effort à faire. Donc il faut que les pays en développement ne baisse pas les bras et continue à pousser pour ce plaidoyer, parce qu'en fait, une grosse partie de l'action climatique aujourd'hui est payée par les pays en développement eux-mêmes. S'il y a entre deux villages une route qui est détruite par des pluies diluviennes, l'État va venir réparer cette route. L'État ne va pas aller au fonds d'adaptation, au fonds vert pour dire « réparez-moi cette route », parce qu'il faut désenclaver les populations qui seront isolées. Donc une grosse part du financement climatique est de toute façon financée par nous-mêmes. Donc il est important aujourd'hui que on nous appuie pour être en mesure de recevoir une part équitable du financement pour régler un problème que nous n'avons pas créé en fin de compte.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Et la cause climatique stimule la création artistique. Tous les matins, Jamen Chivelli, déguisé en Dark Vador, sensibilise les passants sur le chemin du Scottish Avon Campus où se déroule la COP26. Et ce matin, nous avons eu droit à une dédicace.
All right, this song is dedicated to my new friends from France and their wonderful radio program. This song, the song from Simple Minds, Don't You Forget About Me, which is actually a Glasgow band. Simple Minds, how cool is that? Don't you try and pretend we can cool it with decarbonization. It won't harm you or touch your defenses. Vanity, insecurity, Don't you forget about these actual solutions for cooling the planet, baby. Going to take them apart. All the lies they stuff in your heart, baby. Don't you forget about these actual solutions. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. When you walk on by, will you take a flyer?
Ne m'oublie pas, cela pourrait être le slogan des pays les plus vulnérables à cette COP26, notamment pour les aider à réparer les conséquences les plus graves causées par des événements météorologiques extrêmes comme les cyclones et les ouragans. Il existe un mécanisme onusien pour cela, le mécanisme des pertes et dommages, qui pour l'instant est encore une coquille vide. Mais cela pourrait enfin évoluer ici à Glasgow. Aissatou Diouf est en charge des politiques internationales sur le climat à Enda Energy. Elle coordonne le réseau Action Climat pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui réunit une cinquantaine d'ONG. Elle nous explique de quoi il s'agit.
Les pertes et dommages, dans le langage onusien et des négociations, ça va au-delà de l'adaptation. Parce qu'on parle d'adaptation, il y a encore quelque chose à faire pour cohabiter avec le changement climatique. Alors quand on parle de pertes et dommages, c'est au-delà de l'adaptation, ça veut dire que ce sont des conséquences irréversibles lié au changement climatique. Et ce n'est pas que du bien matériel, ça veut dire que c'est une perte liée à la culture, liée à un attachement historique par rapport à une zone. Donc ça veut dire que c'est une double peine pour les communautés qui vivent avec ces pertes et dommages-là.
Alors, cette notion de perte et dommage, elle existe depuis 8 ans dans les négociations internationales. Elle a été créée, elle est montée en puissance, on va dire, à la Convention des Nations Unies sur le climat à Varsovie. Et depuis, plus rien. Alors, est-ce que ce n'est pas emblématique de la déconnexion des négociations avec les réalités du terrain?
Il y a un gap énorme entre ce qui se passe dans les négociations et la vraie vie. Pour moi, la vraie vie, c'est avec les communautés qui vivent au quotidien avec ces impacts du changement climatique, qui n'ont rien causé, qui ne connaissent même pas l'existence de la COP et qui se battent au quotidien pour s'en sortir. Et ici, on a tous les pays qui sont responsables du changement climatique, qui ont une bonne connaissance des causes, des impacts et des conséquences, qui savent très bien ce que vivent ces communautés et qui ne font rien pour y répondre. Donc ça, c'est un gap énorme. Mais je pense que ce que les États qui vivent et les communautés, les organisations de la société civile qui travaillent avec ces communautés, qui vivent au quotidien avec les pertes et dommages, ont réussi à faire, c'est de ne pas lâcher ce sujet pendant 8 années. Chaque année, c'est de revenir et de montrer qu'au nom de la justice sociale et qu'au nom de la justice climatique, il faudrait qu'on prenne mieux en compte cette problématique des pertes et dommages, parce que ces conséquences-là, peut-être qu'on les imaginait pour 10 ans plus tard, mais on se rend compte que les gens les vivent maintenant. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays africains, les petits États insulaires, les organisations de la société civile, à force de tenir et de pousser, ce sujet est venu naturellement cette année et est monté en puissance de façon politique dans le cadre de ces négociations à Glasgow.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire considérer les pertes et dommages dans les négociations aujourd'hui ? Ça veut dire mettre de l'argent sur la table pour les pays qui subissent clairement les conséquences du changement climatique ?
Pour nous, c'est ça. Pour nous, les organisations de la société civile et les pays en développement, c'est mettre de l'argent. C'est pas juste une reconnaissance politique, c'est pas juste une reconnaissance dans les discours de dire oui, ça existe, il faudrait qu'on les prenne en charge, mais c'est de montrer que au-delà de l'adaptation et des questions d'atténuation également, on a besoin de mettre des financements spécifiques pour répondre à cet enjeu spécifique. Et sur ce point-là, on trouve qu'il y a encore un décalage parce qu'il n'y a pas d'argent pour les pertes et dommages. Il y a eu une annonce symbolique de l'Écosse qui a mis 1 million de livres sterling pour les pertes et dommages. Je pense que c'est un signal fort que l'Écosse lance au pays pour leur dire qu'il faut passer maintenant à l'action, il faut faire quelque chose pour les pertes et dommages. Ça ne doit pas juste rester à l'étape de discours et d'intention. Ce qu'il faut, c'est montrer qu'il y a une réelle prise en charge de ce sujet-là et que les États sont déterminés à apporter les bonnes réponses qu'il faut et que les communautés attendent.
Vous qui êtes sur le terrain hein, avec cette cinquantaine d'ONG que vous chapeautez en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ou même avec Enda Energy au Sénégal, comment est-ce que vous percevez toutes les annonces qui sont faites ici, notamment en termes de financement, par rapport aux réalités du terrain ?
Dans cette négociation à Glasgow, je pense qu'il y a eu une COP dans une COP. Donc, on a vu toutes les annonces qui ont eu lieu les 2 premiers jours et qui n'ont pas été faites sous la négociation où les gens ont pris des engagements financiers. Mais pour nous, on ne peut pas traquer ces engagements-là. On ne peut pas suivre ces engagements-là. Les pays ou bien les institutions qui ont pris ces engagements-là ne sont pas redevables à nos communautés parce que ce ne sont pas des engagements qui sont pris sous la négociation. Et ce qu'on remarque, c'est que ces États qui ont pris des engagements financiers pour dire oui, on va mettre de l'argent pour accompagner la transition écologique pour les pays en développement, entre ce qu'ils ont dit ou bien ce qu'ils ont annoncé et ce qui se passe réellement dans les salles de négociation, il y a un décalage.
Vous suivez les négociations climat depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous avez l'impression malgré tout qu'il y a de l'action qui sort de ces conventions des Nations Unies sur le climat ?
Plus ou moins oui, parce qu'on a ce cadre-là. Et pour nous, il est important qu'on maintienne ce cadre-là. Et ce qu'on dit souvent, c'est ce que la Convention offre, c'est que les pays développés et les pays en développement puissent dialoguer et échanger ensemble. Donc le problème, ce n'est pas ce cadre, ce sont les pays qui viennent négocier et qui ne font pas suffisamment d'efforts. Maintenant, on est dans un processus depuis l'accord de Paris. On a un accord. On est en train maintenant de travailler sur les mécanismes d'opérationnalisation de cet accord de Paris. Ça prend du temps, c'est difficile, il y a beaucoup de dissensions, mais au moins on est en train de suivre en fait ce que les États s'engagent à faire dans le futur et les processus qui nous permettraient d'évaluer également. Et je pense que si on n'avait pas ce cadre-là, ce serait difficile. Avec l'accord de Paris, on était par exemple sur une trajectoire de 3 à 4 degrés de réchauffement. Avant cette COP, on est sur une trajectoire de près de 2,7 degrés de réchauffement. On aura un bilan mondial en 2023. Donc, on peut porter un regard critique sur les engagements des États et ce qu'ils sont en train de faire. Et si on n'avait pas ce cadre-là, je pense que ce serait très difficile pour les organisations de la société civile des pays du Sud, pour les pays en développement, de pouvoir suivre réellement les engagements qui sont pris par les pays développés. Par contre, ce processus n'est pas parfait parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En fait, l'action, c'est maintenant. On ne peut pas décaler l'action. On ne peut pas se mettre en perspective les actions qu'on devrait faire. tout ce qu'on a à faire, on doit le commencer maintenant, aussi bien en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en termes de faciliter l'accès au financement climatique, aussi bien pour les États, mais également de façon décentralisée, pour que les communautés locales puissent en bénéficier. Et là, c'est important également qu'on puisse accompagner, par exemple, toutes les collectivités territoriales à mieux avoir accès aux mécanismes financiers, parce que c'est la porte d'entrée de la lutte contre les changements climatiques et ça permet de mieux atteindre les communautés locales. Donc, c'est ce décalage-là qu'on note. Et le fait de tout le temps différer l'action à demain dans les négociations, oui, on va faire, non, pour nous, c'est on y est. C'est maintenant que l'action doit se passer.
Vous qui passez beaucoup de temps sur le terrain, comme on dit, quand vous venez, comme ici à Glasgow, dans ces négociations internationales, observer ce qui se passe et participer aussi à ces négociations, vous venez avec dans la tête des rencontres, des personnes, des communautés qui souffrent des conséquences de ce changement climatique?
Je pense à chaque décision, quand je suis dans chaque salle de négociation, quand j'entends les gens négocier sur... le bon mot au milieu de la phrase, de vrai. Mais je suis sidérée. Je suis sidérée parce que j'ai en perspective toutes ces femmes, tous ces hommes que je rencontre régulièrement sur le terrain et qui vivent dans des situations extrêmement difficiles et qui voient aujourd'hui le changement climatique exacerber leur situation de vulnérabilité, les rendant davantage pauvres. Et on voit qu'ici, c'est comme si les gens vivaient dans un monde parallèle. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui, au quotidien, vivent avec le fardeau des changements climatiques, vivent avec plus de 45 à 47 degrés par jour, voient la saison des pluies arriver plus tardivement, se demander s'ils auront assez de nourriture pour l'année, de voir des femmes aller marcher encore beaucoup plus loin pour aller chercher de l'eau, parce que le changement climatique impacte la disponibilité des ressources en eau. Et de voir ici que des gens, ils sont en train de discuter pour des points, pour des virgules, et qui se disent qu'ils ont du temps. Non. Pour ces gens-là que je rencontre au quotidien, pour ces femmes, pour ces hommes, pour ces jeunes également, qui voient leur avenir s'assombrir parce qu'ils n'auront plus à l'agriculture, parce qu'ils se disent que voilà, ça ne va pas nourrir et qui ne se voient pas de perspective d'avenir radieux. Je me dis que voilà, il y a quelque chose à faire pour amener plus d'humanité dans les négociations. Je pense que c'est ça qui manque, l'humanité, pour que les gens puissent voir qu'au-delà des chiffres, qu'au-delà, c'est des vies humaines qui sont en jeu. Et il faudra prendre les bonnes actions pour sauver ces vies-là.
En attendant que les négociations sur les pertes et dommages avancent dans le cadre onusien, Antigua et Barbuda et Tuvalu, deux archipels des Caraïbes et du Pacifique, ont créé une nouvelle commission pour réclamer des dommages et intérêts aux pays les plus pollueurs par des moyens judiciaires. Les négociations continuent à la COP26. Toute une équipe de RFI est mobilisée pour vous faire suivre cet événement sur l'antenne et sur les réseaux sociaux. Merci à François Porcheron pour la prise de son et la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, toujours à Glasgow, même planète donc, et même heure.
Session Lab, un podcast.